Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue pour notre émission. Pour cette semaine, nous sommes avec Odile Gaudin. Bonjour Odile.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de te recevoir, de vous recevoir, on se vous voit dans cette émission. Même si nous nous connaissons bien, Odile est membre de l'Église protestante unie de Nîmes. Elle est aussi musicienne, elle est aussi poète et très engagée pour les autres. C'est de cela que nous allons parler dans cette émission, notamment. Voilà, donc, Odile Gaudin. Est-ce que vous pouvez nous dire quand, comment, pourquoi vous avez mis votre confiance en Dieu ? Grave question, grande question !
Oui, alors moi je vais dire que ça a démarré dans l'enfance, tout simplement. Peut-être parce que la famille n'était pas vraiment aimante ou n'entourait pas beaucoup les enfants. Et donc je me suis tout de suite senti à l'aise au niveau de l'année qui précédait l'école biblique, l'école du dimanche, on appelait à l'époque. Hein. Et donc, le pasteur Roger Spy, tout de suite, m'a mis le pied à l'étrier, et en particulier grâce à un texte qu'il avait lu où il y avait l'appel des disciples, et il s'adressait aux enfants, qu'il nous avait dit que Jésus aimait les enfants. Et moi, je lui ai demandé si je pouvais être inscrite sur le livre. Donc, je crois que je suis restée fidèle à cet engagement d'enfant. Je ne suis pas sûre d'avoir évolué.
Mais c'est très beau, un engagement d'enfant. Ça reste avec la beauté de la découverte vers les autres, vers Dieu, vers... voilà,
c'est ça.
C'est un mouvement qui continue.
Voilà, pour aller au service des autres, tout à fait.
Voilà.
Oui, c'est important.
Et donc, vous avez cheminé avec Dieu, je dirais.
Oui, tout à fait. Bon, après des engagements après la communion, confirmation, j'étais cheftaine de Louveteau, monitrice à l'école du dimanche, etc. Très engagée. Et puis, des pépins de santé à 17 ans font que j'étais expédiée en sanatorium et que tout d'un coup, la vie s'est arrêtée. Plus de famille, plus de vie. Mais j'ai rencontré le pasteur Keller, Paul Keller, le grand alpiniste là, magnifique, qui à nouveau m'a attrapé, m'a remis le pied à l'étrier, donc accompagnement des cultes, était présent. Donc ça a été une référence qui fait qu'il n'y a pas eu de coupure, au contraire, un engagement différent au milieu des gens qui étaient en sanatorium.
Et donc vous êtes sortie d'une sanatorium.
Alors, je suis sortie.
Bien vivante.
Oui, 3 ans après, en ayant fait, grâce à la post-cure, mes études d'infirmière. Je n'étais pas du tout destinée à être infirmière. Je voulais être prof de philo, vraisemblablement, et faire des études de théologie pour partir en mission. C'était mon rêve. Voilà.
Très bien, très bien. Et donc, ce rêve n'a pas pu se concrétiser à cause de votre maladie
Déjà, oui. Et puis, je me retrouvais seule. Je suis sortie de post-cure parce que, pour des histoires administratives, ma famille n'avait pas fait suivre les papiers. Et donc, j'ai commencé à travailler en faisant mes études d'infirmière grâce à Paul Keller qui avait trouvé des familles où je gardais des enfants, etc. Donc, j'ai passé ce diplôme d'état d'infirmière qui a été un moyen de gagner ma vie et d'avancer.
Alors, oui, ça a été un changement par rapport à la philosophie.
Tout à fait.
Même s'il y a une certaine philosophie de vie, sans doute, dans le métier d'infirmière et dans la relation aux autres. Là, c'est...
Oui, là, c'est au service des gens malades, à l'écoute des gens malades.
Oui.
Souvent seuls aussi, Oui.
Donc, plusieurs études, parce que vous avez parlé donc des études d'infirmière.
Alors, j'ai fait ces études d'infirmière. Je suis allée à la fac à Paris. J'ai travaillé comme assistante de paroisse à Belleville pendant 3 ans, en faisant l'auditrice libre des études de théologie. J'ai commencé. J'avais toujours ce rêve de peut-être partir un jour en mission. Voilà. Bon, je me suis mariée, c'était pas le bon choix vraisemblablement, donc ça n'a pas pu se réaliser, voilà. Ouais. Et puis quand je me suis retrouvée seule, j'ai repris des études, tout en travaillant comme infirmière, des études de lettres modernes. J'ai passé ma licence, je ne suis pas allée au bout de la grègue parce que toute seule, sans cours, ce n'était pas évident. Ouais. Voilà. Donc, mais toujours engagée dans l'église, avec les dons que j'avais reçus.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces études de théologie, pour vous personnellement?
Alors,
et puis pour,
moi, j'ai aimé beaucoup cette phrase de Luther, c'est une foi en acte. Je n'avais pas envie d'être pasteur, je ne voulais pas être que dans la parole. C'est vrai qu'il y a aussi un accompagnement, une visite auprès des gens, un accompagnement important, mais je voulais être, j'allais dire, les mains dans le charbon de la misère humaine, quelque part. D'accord. Voilà, j'avais envie d'aider tous ceux qui galéraient, qui avaient des difficultés à vivre. Et donc, oui, des études de théologie pour continuer de me nourrir de cette parole et de travailler au nom de Jésus-Christ, et continuer d'avancer dans cette voie-là, mais être très proche des gens pour partager.
Donc ça vous a forgé intérieurement, je dirais, peut-être, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là,
oui.
pour vivre aux côtés de la misère humaine, comme vous dites.
Oui.
Donc, pas quelque chose d'intellectuel, trop dans le discours, mais plus dans le quotidien avec les personnes.
Exactement. Mais j'étais prof de lettres, par exemple, pendant pas mal d'années. Et comme je n'étais pas titulaire, le rectorat m'a donné, tous les deux ans, changé de collège, on me donnait les classes les plus « mauvaises », entre guillemets. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que le rectorat a pu me faire. C'est d'être proche d'enfants en difficulté, où on voyait nul, zéro, etc. Et d'aller chercher ce qui était beau et bon en eux, et de les sortir de là, leur donner, voilà, tout simplement le droit d'être, d'avoir une valeur à développer.
Tout à fait.
Donc ça a été ma joie.
Ouais, très important pour les personnes de savoir qu'elles ont... en face d'elle, quelqu'un qui les considère et qui va leur permettre de s'épanouir, hein, plus que tout ce qu'il y a dans la tête. Et voilà, ouais, très important. Merci beaucoup pour ce témoignage de très vivant. Et donc après, il y a d'autres choses aussi qui ont été pour vous importantes. Nous savons, quelques-uns d'entre nous, que vous êtes allés jusqu'en Roumanie. Oui. Et alors, ça nous propulse dans un autre univers aussi, parce que nous avons beaucoup entendu parler de la Roumanie à certains moments, hein, une époque très triste. Et ça serait intéressant de vous entendre là-dessus sur pourquoi vous y êtes allés, qu'est-ce que vous avez vécu.
Là, je vais dire que c'était ce rêve qui revenait, et c'était loin d'être un rêve, c'était un vrai cauchemar. Quand j'ai vu les premières images de ces enfants à la chute de Ceaușescu, donc la chute était en 89, et les premières images des enfants mouroirs étaient en 90. Et moi, à cette époque-là, j'avais des pépins de santé, et je venais d'être opérée d'un deuxième cancer, voilà. Alors peut-être que au fond de mon lit, un bouquin à la main, j'avais plus envie de gémir sur moi, j'en sais rien. Mais quand j'ai vu ces images sans le son, c'est ma voisine qui regardait, j'ai vu ces mômes, je me suis dit mais où est-ce qu'ils sont? Enfin, c'est pas possible, quoi. Ce sont des gosses qui ne mangent pas, qui ne sont pas habillés, et donc elle a mis le son et quand j'ai entendu, je me suis dit, bon, c'est bon, je sais où je vais aller. Je vais me dépêcher de me mettre debout. Et avec mes élèves, le plus mauvais collège de France, les plus mauvais élèves du plus mauvais collège de France à Aigues-Mortes, on a monté, je pense, le plus beau projet d'action éducatif. Donc, un jumelage, un convoi humanitaire. On a préparé, donc collecté, etc. Seulement, quand je suis arrivée en Roumanie et que j'ai ouvert les portes des camions, je me suis rendu compte que j'étais une espèce de dictature humanitaire, puisque j'imposais aux gens qui n'avaient rien demandé, quelque part. Alors, il y avait ceux qui étaient honteux dans leur coin, et puis il y avait ceux qui réclamaient du bakchich. réclamer les cadeaux, etc. Et là, je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, tu relèves tes manches et tu vas vivre comme eux et avec eux, les aider. Donc j'ai appelé le rectorat, j'ai dit, je demande un an de congé sans solde, sans fichier, puisque je n'étais pas titulaire, ce n'est pas difficile. Voilà. Et je suis restée un an dans un mouroir.
Donc vivre avec eux.
Avec eux, comme eux. Les sortir.
Donc les aider à manger, les
leur
aider
redonner
à. Parce qu'ils étaient extrêmement abîmés au niveau de la santé.
Complètement. Redonner au personnel comme aux enfants l'espoir et l'envie de vivre, d'exister, leur montrer qu'ils existaient, apprendre aux enfants à parler, apprendre ce que c'est qu'une caresse sur la main. Voilà, des choses semblables. Réapprendre même à fabriquer du pain sans l'arracher de la bouche du voisin, quoi, c'était presque ça. Et donc, ça a été quelque chose de fabuleux. Je dirais, on apprend l'humilité et l'amour, point. Pas le jugement. Par pitié, pas le jugement.
Et donc, c'était des enfants de différents âges, parce qu'il y avait des tout petits,
bien sûr,
puis
puisque
des plus grands.
L'histoire de Ceausescu, ça va être long, non, ça? C'était, on prend le cinquième enfant, on demande à la famille de donner à Ceausescu le cinquième enfant pour qu'il en fasse ses enfants. Voilà, il allait être le parrain de ses enfants. Seulement, ce monsieur a fait un tri. Les bons pour le service et pas bons. Et les gens, bien sûr, donnaient l'enfant le plus en difficulté, celui qu'on n'allait pas pouvoir soigner ou qui avait déjà tellement de problèmes. Donc, quand il a fait le tri, tous ces pauvres gosses déjà amochés sont partis dans des mouroirs où il n'y avait pas d'argent pour leur donner à manger. C'était des espèces de bouillons ou trempés, je ne sais pas quoi. Pas de quoi les nourrir, pas de quoi les vêtir, pas de quoi les soigner. Voilà. Et le personnel n'avait rien entre les mains. Donc, je n'allais pas juger ces gens-là non plus. Hein. Donc, c'était vraiment... il fallait apprendre à avancer pas à pas avec eux, sans jugement, surtout sans jugement. Mmh. Voilà.
Chaque jour, la vie au quotidien.
Exactement. Et puis... Pour moi, c'était magnifique.
Ouais. Ça a dû être un parcours.
Quand
vraiment...
un enfant parlait, se mettait à dire un mot, les gosses qui me reprenaient, qui attrapaient des fous rires parce que je prononçais mal le roumain, sont des gosses autistes qui m'ont appris le roumain, hein, ou des muets qui m'ont appris le roumain. Voilà.
Ouais. Une grande expérience.
On pourrait faire venir, d'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus, et il y a un professeur de français, mais roumain, qui vit maintenant en France avec son épouse, qui a traduit ce livre en roumain, et pourrait nous parler de cette liberté que les Roumains ne connaissent pas encore.
Oui.
Pas franchement.
Oui. Ça serait intéressant, oui, de programmer une conférence.
Exactement.
On lance un appel,
voilà,
à la maison
et
du protestantisme,
qui nous
parlait
aussi de ce peuple pauvre qui accueille les Ukrainiens à un côté.
Oui.
Hein, dont on ne parle déjà plus, on a oublié, nous.
Oui. Oui.
Voilà.
Donc, oui, vous avez vécu la solidarité, toute proche, l'amour que Jésus...
Oui, aller vers les pauvres, les
donné,
malheureux,
voilà,
c'est tout. Ouais. Et puis s'apercevoir que c'est une grande richesse, c'est une grande joie, c'est une grande paix, voilà.
Oui. Donc, on peut aussi remercier le Seigneur.
Bien sûr.
Voilà. Et on va le remercier en écoutant Magnifique et le Seigneur que vous avez eu envie de partager avec les auditeurs et les auditrices. Alors nous allons écouter ce cantique et puis nous revenons juste après ensemble avec Odile Godin que je reçois aujourd'hui à Radio Alliance Plus.
Abat les orgueilleux, il renverse les puissants.
Avant de reprendre notre émission et le cours de notre conversation, je me tourne vers Odile Gaudin pour qu'elle nous lise cette poésie qu'elle a écrite, et cela fera notre introduction sur ses nombreux talents. Et elle aime beaucoup écrire, et elle a écrit une poésie qui s'intitule « Qu'est-ce que donner ?» Et cela va très bien avec ce que nous disions juste avant ce chant magnifique et le Seigneur.
Qu'est-ce que donner ? Peut-être l'envie de partager, en toute humilité. Quelque chose qui semble beau, la plume d'un oiseau. Qui semble bon, comme un velouté de poireau. C'est parfois espérer, pouvoir aider. Et de quelque charge soulagée, l'envie de protéger quand se courbe le dos. Bon, en un mot, c'est simplement aimer. Et avant tout donner, pour exprimer à l'autre notre reconnaissance, lui dire toute son importance, dans un petit acte gratuit, sans rien attendre de lui, juste donner une brindille de vie, parfois dans un don bien petit.
Merci Odile, donc cette poésie s'intitule « Qu'est-ce que donner ?» Et je pense que ça va très bien avec ce que vous vivez, ce que vous avez envie encore de vivre dans vos engagements et dans ce que vous avez envie de, tout simplement, le don de vous-même et le don de l'amour qui vous a aussi été transmis par le Seigneur Jésus-Christ, bah oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par ce cantique. Alors, dans ces engagements, il y a plusieurs formes. Il y a donc l'écriture poétique, que nous venons juste un peu d'entendre, puis nous en entendrons encore une autre poésie à la fin de l'émission. Mais il y a aussi la peinture et il y a aussi la musique. Alors, parlez-nous de ces trois choses.
Alors, je pense que j'ai, dans ma vie, si les parents n'étaient pas des gens très aimants, j'ai eu une grand-mère extraordinaire qui a pensé que, pour compenser cela, il fallait développer chez cet enfant que j'étais, qu'elle avait, je pense, un peu, elle avait dû sentir une certaine sensibilité. Donc, elle a développé le fait, dès l'âge de 5 ans, elle m'a flanqué dans les mains un crayon écrit, tout ce qui se passe dans ton cœur, dans ta tête. Un pinceau, vas-y, peins. Et puis, elle m'a mise au piano, donc à payer des cours de piano au début. Puis finalement, après, mes parents ont continué de me laisser faire du piano et d'aller au conservatoire. Donc, ça a été pour moi des moyens de mettre cela au service du Seigneur aussi. Et non pas d'en faire une gloire, parce que non, il n'y a pas de gloire, mais continuer d'accompagner les cultes au piano, par exemple. Voilà.
Ce qui est bien utile. Hein. On aime la musique dans les cultes, et notamment, puis, ou dans les services funèbres, ou ailleurs. Ou voilà, exactement. C'est très important.
Et puis aussi, par exemple, pendant plus de 20 ans, là, en Gardoninque, d'où je viens, on a fait des expositions pour tous les artistes de l'ombre, c'est-à-dire tous ceux qui avaient un don caché. Ça peut être du point de croix, ça peut être, je sais pas, du papier que l'on plie, etc. Et leur donner la possibilité d'exposer, de montrer leurs œuvres. Et on faisait cela au profit d'eux. Et c'était du Téléthon. Donc c'est vrai que j'ai fait des expositions avec eux, mais tout était vendu au profit d'eux. Et j'ai continué aussi, quand on m'a demandé de l'aide, par exemple, d'imprimer des livres de poésie, au profit d'eux. Et là, il va y avoir des livres qui vont être vendus au profit d'un projet.
D'accord. Un projet sur l'île. On va en parler tout à l'heure. Donc, vie de foi, confiance en Dieu, vie dans les actes.
Oui. Hein,
quelque chose de très concret dans votre vie, ça se sent vraiment beaucoup. Et donc, ce qui vous anime, c'est comment vivre avec les autres. Comment être avec les autres ?
Il y a une parole qui est, si jamais j'oublie, c'est drôle, elle revient très très vite, c'est « on t'a tout donné gratuitement, donne à ton tour ». C'est Jésus qui le dit à ses disciples, « on vous a tout donné gratuitement, alors vas-y, donne aussi, toi, partage ».
Oui, vous avez reçu gratuitement, voilà. Donné gratuitement.
Exactement.
Oui, tout à fait. Donc, c'est... Et puis, c'est... ça soulage, je dirais, parce on que ça ne met pas la pression.
Hein, non, on est très bien.
Quand on donne comme ça. Très bien. Alors, vous venez de nous parler d'un projet avec donc ces poésies que vous avez écrites. Donc, vous avez édité plusieurs textes poétiques. Vous nous en montrez quelques-uns là au studio. Il y en a plusieurs. Et donc, votre but, le but, c'est d'en faire quoi ?
Eh bien, à chaque fois, c'est vendu au profit de quelque chose.
Voilà.
Voilà. Donc, on va animer avec tout un groupe de la paroisse. On va commencer par la garden party. On va animer, je sais pas comment il faut dire, une soirée ou une conférence ou je ne sais quoi. On est encore en projet au profit d'une aide à une famille malgache. Et donc, demander tout le temps des sous et l'aumône, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de proposer, si vous voulez un livre, vous l'achetez. Voilà, c'était un espèce d'échange, donnant-donnant, et pas tout le temps quémander. Donc, il y a longtemps que je fonctionne comme ça. Et c'est Mireille Almeras, je la cite, pardon Mireille, mais je ne peux pas faire autrement, c'est elle qui m'a poussée là, dans ce projet, et qui va animer d'ailleurs la soirée avec Paul Blaise en lisant des poèmes.
En disant, donc, Mireille Soulier ?
Mireille Almeras.
Ah, d'accord.
Mireille. Autre enseignante.
Voilà, il y a plusieurs.
Autre enseignante.
Excusez-moi. Voilà. Avec Paul.
Paul Blaise, qui voilà. Va accompagner musicalement. Et
d'accord.
Donc, vont faire une petite animation autour de la poésie en musique. Et après, on propose, si vous voulez, acheter un livre au profit du projet malgache.
D'accord. Voilà. Parce que, donc, pour rappeler, Madagascar a vécu des choses terribles ces dernières années. Et je dirais de tout temps, de nombreuses, nombreuses années, mais il y a eu la fameuse tempête dernièrement aussi. Donc, il y a beaucoup de besoins à Madagascar.
Et là, en particulier, c'est une famille dont la maman est en France et le reste de la famille est à Madagascar. La maman est en train de... j'allais dire, obtenir des diplômes français. Elle est médecin malgache, mais elle se sacrifie. Ses trois enfants sont à Madagascar pour faire venir cette famille, car un des enfants a besoin d'une opération. Elle ne se fera même pas à Nîmes. Il n'y a qu'à Montpellier qu'on pourra la faire. Donc, le projet que nous mettons là en place, c'est de trouver un financement. Il y a aussi un projet orthopédique. Il y a besoin de chaussures orthopédiques. Donc, voilà. Pour aider. Après, elle le fera de ses propres ailes, mais déjà aider. Voilà.
D'accord. Donc, cette soirée que vous appelez Garden Party, elle est prévue quand ?
Le 25 juin à 19h, au 62 Route d'Alès, je crois que c'est ça.
Oui.
Au foyer fraternel.
Au foyer fraternel, voilà, c'est ça. Il y a un jardin, et
voilà,
puis on
exact.
Va... voilà,
il y aura
donc
un repas partagé.
On mange ensemble, on apporte quelque chose à manger.
Chose, voilà.
Voilà.
Et puis, il y aura un petit temps-spi, et puis un temps animé autour du repas, voilà.
Voilà, donc, et puis cette possibilité... donc,
d'aider.
Voilà.
D'aider sans mendier, sans avoir l'impression d'être encore une fois sollicité.
Voilà. De faire
c'est
quelque
ça,
chose
voilà.
Pour les autres, mais d'une façon, avec un échange voilà, interactif, je dirais.
C'est ça.
Voilà. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup, Odile, de nous faire cette proposition. Et donc, c'est au 62 Route d'Alès, au foyer fraternel,
à
Nîmes, tout bientôt. Et donc, voilà, bah, merci beaucoup pour cette annonce. Nous allons terminer, eh bien, en poésie, voilà, puisque vous avez écrit une poésie qui s'intitule « Aimer ».
Aimer. Si j'avais un don à demander, ce serait celui de savoir aimer. Aimer la vie, le ciel bleu, le soleil, les fleurs, les oiseaux, le miel, la montagne aux neiges éternelles. Aimer ceux d'ici et ceux de là-bas. Qu'ils me ressemblent ou que je ne comprends pas. Ceux qui font la guerre, ceux dont on ne parle pas. Aimer les enfants heureux, les vieillards malheureux avec des larmes dans les yeux. Aimer ceux qui m'aiment et ceux qui m'ont blessé. Aimer et tout pardonner, en acceptant peut-être de n'être jamais aimé. Aimer les cerveaux brouillés, les corps déglingués, comme on recueille un oiseau blessé. Aimer le ciel gris apportant la pluie et voir l'arc-en-ciel qui suit à tous les conflits. Et si j'avais un don à vous donner, ce serait celui d'aimer et d'aimer tous ceux que je n'ai pas su aimer.
Merci beaucoup, Odile, pour cette poésie qui s'intitulait « Aimer ». Et quoi de mieux que de terminer sur ce mot ? Merci beaucoup d'être venue à Radio Alliance Plus.
Merci.
Donner quelque chose de vous, de précieux, et de votre collaboration dans l'amour, tout simplement, aujourd'hui, à Radio Alliance Plus. Au revoir, Odile, et à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.